Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme d'habitude, je suis accompagné de Yann.
Salut, salut à tous.
Et aujourd'hui, on est très content de recevoir Mélissa Cancelier. Son nom vous dit peut-être rien, mais si vous avez fini un jeu d'Ubisoft dernièrement, vous avez sûrement dû voir passer son nom dans les crédits. Mélissa est experte en neurosciences, expérience client et expérience utilisateur chez Ubisoft. Comment ça va, Mélissa ?
Ça va très bien. Merci beaucoup, Chris. Ravi d'être là.
Cool. Bah déjà, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ton métier et comment tu aides les équipes chez Ubisoft ?
Alors, mon métier, il consiste à comprendre l'expérience des joueurs. Donc plus particulièrement dans tous les services qui vont être périphériques à l'expérience de jeu. Donc en ce moment, je travaille beaucoup sur la compréhension de tout ce qui se passe autour de l'expérience de jeu à proprement parler, dans l'utilisation de tous les services, que ce soit d'achat, de recherche d'aide, de visionnage de contenu, de recherche de contenu, etc.
Ok, ouais, c'est hyper large du coup. C'est pas juste.
Très large.
Ok.
Très large, très occupé.
Super. Bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Alors, pour le premier jeu, chronologiquement, on retrouve en 1989, avec le tout premier Prince of Persia. À l'époque, donc, c'est déjà un jeu d'action-aventure en 2D. Qui est développé par Brother Bund Software, et il sort en premier lieu sur l'Apple II, donc le tout premier micro-ordinateur personnel au monde d'Apple. Est-ce que tu te souviens de toi sur quelle console tu y as joué, et un peu tes souvenirs autour de ce jeu-là ?
Alors oui, en fait, alors moi c'était sur Amstrad.
Okay.
Donc c'était donc les ordinateurs d'avant qui avaient une taille un petit peu plus réduite qu'une machine à laver. avec les imprimantes qui faisaient des gros grincements, voilà. Mais ouais, globalement, c'était vraiment le premier jeu auquel j'ai joué et que mon père n'avait pas fait.
Okay.
Parce qu'avant, mon père me faisait des jeux. En fait, j'ai commencé comme ça sur ordinateur. Et en fait, après, il jouait à Prince of Persia et je voyais sur écran. Donc, effectivement, ça avait une autre tête de mes petits problèmes mathématiques et jeux du pendu avec les personnages Disney. Et donc je me suis intéressée à ça.
Ça, c'est les jeux que ton père te faisait?
En fait, c'est ça, ouais. Mon père, il s'est intéressé à l'informatique. Après, alors qu'il travaillait déjà, donc il travaillait dans une entreprise, mais il était plutôt du côté ouvrier, on va dire. Et en fait, il s'est intéressé à l'informatique, il a plongé dedans. Et du coup, après, il a travaillé en informatique. Mais en fait, quand il a commencé à faire ça, il a commencé à programmer des tas de choses. Et moi, j'arrivais à l'école primaire et je commençais à lire et à compter. Et en fait, lui, il voulait me faire apprendre par le jeu. Et en fait, il avait aussi compris que, qu'en me mettant sur un jeu, lui, il était tranquille. Donc, il avait commencé à me mettre des tas de jeux, des petits problèmes mathématiques sur Amstrad. Si Mickey et Minnie ont chacun deux parts de gâteau, combien de parts de gâteau ? Et puis, le jeu du pendu avec que des personnages Disney. Et j'adorais ça. Puis, c'était... Déjà, j'étais toute seule sur l'ordinateur, donc quand on a 6 ans, c'est genre dans le gros siège de bureau de papa. C'est pas l'impression de, tu sais, d'être maître du monde, tu vois.
Toute une expérience.
Toute une expérience. Et du coup, et un jour, en fait, je l'ai vu sur Prince of Persia. Et bon, là, j'ai vu le décalage quand même graphiquement. C'est avec des jeux que j'avais. Et j'ai commencé à y jouer. Et c'était incroyable pour moi, c'était vraiment prendre le contrôle d'un personnage. Avant, pour moi, les personnages c'était que dans les dessins animés, il y avait même pas vraiment de j'étais même pas exposée à des pubs jeux vidéo à l'époque. Donc c'était vraiment quelque chose de je rentrais dans le monde du jeu vidéo que par ce biais-là. Et du coup, c'était prendre le contrôle d'un personnage qui saute partout, qui était hyper agile. Et nous qui étions très sportifs, je me dis, oh, ça doit être génial de faire ça, de sauter partout. Parce qu'il y avait quand même, même si tout était pixelisé, on voyait vachement les actions de hop, il s'accroche au toit, hop, il se lève vraiment. Il y avait quand même vraiment, même avec 3,5 pixels, il y avait quand même cet effort de transmettre l'idée de parcours et de figure sportive avec toutes les positions et les mouvements, en fait, qu'avait le personnage. C'est-à-dire qu'il y avait, on voyait quasiment pas son visage, mais par contre, vraiment tous les mouvements, etc., ils étaient relativement bien transmis. Et donc ça, c'était complètement magique, quoi.
Et c'est marrant que tu dises ça, parce que ouais, et un fait intéressant de ce jeu-là, c'est que ouais, l'animation est hyper fluide et détaillée, parce qu'en fait, ils ont utilisé un procédé technique qui est de filmer. Ils ont vraiment filmé. Je crois que c'est le frère du concepteur de jeu. Il l'a filmé pendant qu'il se battait à l'épée, quoi. Il faisait des mouvements à l'épée, etc. Et donc, ça a vraiment été numérisé et ensuite intégré au jeu. Donc, c'est hyper réaliste. C'était un jeu à l'époque qui était vraiment reconnu pour ça, quoi.
C'est le précurseur du motion design, quoi.
Carrément.
Ah, mais je savais qu'on était sur quelque chose. C'était pas possible.
Ça devait être surprenant quand même que genre le héros te posait pas des questions de maths.
Ouais, c'est ça. J'ai pas des questions de maths, mais c'est bizarre. C'est tellement facile. Il y a rien que la maîtresse m'a demandé et qui me demande. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, je pense qu'en fait si on devait avoir des jeux genre Pac-Man, tu vois, des petits jeux comme ça, mais qui m'avaient pas du tout marqué par le manque d'immersion. Et puis, il y avait quand même un minimum de profondeur dans le jeu, parce que, enfin, il y avait non seulement toutes les plateformes, mais il y avait aussi effectivement les combats. Et donc, et c'est vrai que, bah, à l'âge que j'avais, et puis peut-être aussi à l'époque, je me demande s'il y avait vraiment beaucoup de jeux qui permettait d'apporter cette profondeur-là, en tout cas sur Amstrad. Je pense pas qu'il y en avait des masses. Et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre qu'il y avait un vrai effort sur les prémices de motion picture, parce que c'est vraiment même enfant, bah moi ça m'a vraiment fait quelque chose, quoi. Donc c'est hyper intéressant de voir que du coup ça a eu vraiment un effet buff.
Carrément.
C'est vrai que le motion capture, c'est, enfin, pour moi ça faisait tellement récent, je pensais pas du tout que ça avait été utilisé dans un truc aussi ancien. Désolé pour le mot ancien, mais enfin 89, tu te dis la plupart des jeux quand même ça restait du pixel, donc je trouve ça fou d'intégrer du motion capture dans du pixel, en fait.
C'est vrai que ça paraît ambitieux à cette époque-là, ça paraît ambitieux. Après filmer et motion prémices de motion capture, parce que motion capture c'est vraiment tu mets des points critiques de ton corps au niveau d'articulation et de ta silhouette pour ensuite être capable de reformer la figure réelle. Mais là c'est plus de l'inspiration de ce qui a été en vidéo de position et de mouvement pour ensuite le remettre en pixel entre guillemets à la mano a priori.
Donc, ouais, c'est ce que je me dis, il devait faire ça manuellement, quoi. Tu sais, il devait mettre les points lui-même genre et voir comment il se déplaçait, puis après calculer les trucs, puis les mettre dans le jeu, quoi.
C'est ça. Alors, j'ai 6 pixels. Faut que ça ressemble à ça. Ça fait vraiment.
Le brief. Alors, le brief pour le développeur.
Avec les cubes, tu sais. Alors, comment on fait? On a 4 cubes. Comment on fait pour remplir la photo? Tu sais, ça doit vraiment être. Avec des gommettes. Non, mais ouais, ça peut être marrant.
Et Chris, du coup, la suite. Enfin, en fait, du coup, Prince of Persia, le premier, il n'est pas développé par Ubisoft.
Non, exactement. C'est seulement en 2001 que Ubisoft, du coup, rachète la licence. Et ensuite, ils rebootent totalement le jeu, quoi, avec des choses beaucoup plus modernes. Et ça, le succès qu'on a connu par la suite.
Pour à la fin, genre, sans vouloir en créer un qui devient Assassin's Creed.
Exactement.
Ouais, c'est vrai qu'il y a du lien. Mais il y a Prince of Persia qui va ressortir.
Ah.
Remasterisé, enfin il y a une édition remasterisée qui va sortir, qui est produite en Inde, qui a déjà été annoncée. J'espère.
Oui, totalement.
Non, c'est
une exclue. Non, c'est vrai.
C'est d'autres à être annoncé.
Mais au pire, ce sera coupé et personne ne le sent.
On va vérifier. En tout cas, en interne, oui. Hein.
Ouais. Non, mais, en plus, c'est vraiment la réponse nulle. Genre, ouais, ça me dit quelque chose, mais enfin, tu vois, même si c'est pas annoncé.
C'est terrible. Mais pour le coup, pour revenir au jeu dont on a le droit de parler et qui est sorti en 89, est-ce que tu te souviens si t'avais réussi à le finir ou pas?
Pas toute seule. Je crois pas que j'avais réussi à le finir toute seule ou alors plus tard. Je sais que il y avait des moments où mon père y jouait un peu aussi quand j'y arrivais pas. Sachant que un de mes vrais grands traits de personnalité, c'est la patience. Je crois qu'il devait m'aider peut-être deux ou trois fois. Mais parce qu'il faut dire aussi que j'avais quand même des temps relativement limités pour jouer. Et donc ouais, je me suis quand même perfectionnée. Je me demande s'il m'a pas aidé au début et puis après il m'a laissé. Je t'avoue que ça remonte hein, quand même. 80. Donc je me rappelle plus si en tout cas je sais qu'on l'a fini et je sais que j'ai vu la fin parce que je me rappelle de voir la fin avec lui.
Okay.
Genre un truc un peu solennel et sans m'en rappeler très bien je me rappelle ouais de qu'il y avait la fin. En fait, ce qui est, faut comprendre aussi que bah même si aujourd'hui on apprécie beaucoup les cinématiques, voire même qu'on les trouve, qu'on est un peu blasé et que quand c'est des cinématiques d'introduction, on veut juste se retrouver dans l'action. Il me semble quand même qu'à l'époque, les jeux étant tellement pixelisés, là c'était, je pense c'est des jeux étaient couleur depuis pas 20 ans. Donc le fait d'avoir des fins avec un petit peu plus de graphisme, c'était le Graal quoi, c'était la quête du, c'est-à-dire que même l'écran d'accueil avec un château ou un truc, enfin c'était déjà waouh, on rentre dans quelque chose d'incroyable. Bon, après on était sur 2D avec 4 pixels et demi, mais la fin c'était encore plus quelque chose, tellement il y avait peu de résolution graphique en fait sur tout le reste, sans que ça enlève l'intérêt du gameplay, mais en tout cas même la en fait il y avait tellement de différences entre la fin et en fait tout ce qui est en gameplay que c'est sûr que c'était quelque chose. Même mon père aujourd'hui, ah mais c'est fou ça, c'est vraiment, ah ouais, et ça c'est quand tu joues, enfin lui vraiment les, ah, ça c'est quand tu, bah oui hein, c'est sûr que qu'avant c'était pas la même chose. Donc ça lui fait toujours quelque chose de voir comment le décalage se réduit entre la qualité graphique gameplay et cinématique, même si voilà, pour des gens qui ont vécu que des récents jeux, ça paraît encore énorme. Ouais.
Pour rebondir sur ton père, est-ce que c'est lui du coup qui t'a donné le goût un peu du jeu vidéo ?
Ouais, complètement. C'est sûr. Ouais, c'est sûr parce que ouais, le goût même de, je pense, de la technologie et du jeu. Enfin, déjà le fait qu'il puisse fabriquer un jeu. Moi, j'étais mais waouh. Déjà quand, enfin, tu sais, je sais pas. Quand par exemple t'es au collège et puis tu sais, tu as les calculettes scientifiques, tu fais un programme, tu sais, pour avoir des dérivés. Déjà, t'es en transe. Donc ouais, programmer un jeu sur ordinateur, c'est enfin, déjà moi je trouvais ça dingue. Enfin, j'ai l'impression qu'il faisait de la magie, tu sais. Et puis tu sais de voir s'intéresser. Pour moi, c'était vraiment la caution qualité, la caution c'est bien, la caution parce que voilà, il s'intéressait à plein d'activités et tout ce qu'il faisait, c'était génial. Donc pour moi, c'était sûr que c'était forcément bien les jeux. Et après, en fait, ça m'est vachement resté, même quand j'ai quitté le nid, entre guillemets, avec des consoles plutôt portables pendant longtemps. Donc Game Boy, pareil, très tôt, enfin quand elle est sortie, quoi. Ou l'année d'après, je crois que j'ai eu un globe terrestre à Noël. Oh la loose.
je veux la Game Boy. Tiens, voilà ton globe terrestre.
Alors là, c'est vrai.
Après, t'es dans le métro en train de regarder ton globe terrestre comme ça.
C'est ça, qu'il était
énorme.
Et ouais, donc j'attendais la Game Boy. Non, j'ai eu un globe terrestre. J'étais bon. C'était un petit peu la douche froide. Ouais, très fort. Mais par contre, après, ouais, donc j'ai eu la Game Boy. Puis je me rappelle, j'avais une espèce de sacoche banane avec les poches, avec les jeux. Grande classe. Et je me battais avec ça partout. Et je l'ai eu hyper longtemps jusqu'à la fac. enfin première année de fac. Après j'avais pris la PlayStation portable et ouais PSP et mais du coup ça va rester. On a vu aussi une Master System 2 à la maison, mais plus trop de consoles jusqu'à après la rencontre avec Juan, mon chéri. Donc là Xbox 360, PS4 maintenant, Switch. Mais voilà. Ah, disons qu'il y a eu pas mal de consoles portables parce que j'arrêtais pas de voyager tout le temps. J'ai force de vivre dans d'autres pays et tout. C'était bien pratique d'avoir sa console qu'on puisse en mettre partout. Et en tout cas, gros intérêt. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que mon intérêt au sens professionnel du terme, il n'était pas criant, quoi. Moi, je travaillais dans les neurosciences. Et en fait, si je sais pas si ça intéresse, mais la manière dont je suis rentrée dans le jeu vidéo, c'était super random. Donc en fait, il y avait les carrefours à HEC à l'époque. Il y avait dans les carrefours HEC, en fait, des entreprises, elles font des stands comme ça dans l'école, HEC à Paris. Et voilà, donc elles mettent plein de goodies sur leur table comme appât pour les étudiants. Et moi, je devais aller bosser chez Cisco à l'époque. Ouais, c'est ça. Exactement. On voit que j'y ai pas été, hein, avec toutes les pannes. Non, mais alors, du coup, j'étais déjà, moi, j'avais déjà une offre. J'avais une autre copine, elle avait déjà une offre. Et puis, en fait, on va quand même au Carrefour HEC pour, en fait, aller choper tous les goodies. La boule anti-stress Amadeus, le petit camion La Poste, les t-shirts, les tote bags, enfin,
genre. Clé USB et tout. Je vois bien le délire.
Ouais, c'est ça. Alors, clé USB, là, tu tapes dans le haut du panier. Nous, déjà, même un petit camion La Poste, on prend. C'est le camion majorette, tu sais, le petit truc. C'est bon, on prend. Alors, t'as eu quoi? Le camion La Poste. Attends, il est où? Je vais aller prendre. C'est super 10 minutes. Donc, on faisait ça. Et en fait, donc tous les stands, alors en plus ou moins, tu sais, formel, tu sais. Et puis, et à un moment, on voit de la musique, des gens qui dansent et tout. Ah, c'est quoi et tout. Et en fait, c'était le stand d'Ubisoft. Et en fait, ils avaient Just Dance. Alors, autant dire que tous les stands à côté, c'était vraiment... honnêtement, ils faisaient pas le point. En fait, on arrive. Et à l'époque, c'était le senior producteur de Ghost Recon, donc Nourdine, qui était là, qui tenait le stand. Et on arrive avec une copine, on fait « Ouais, bonjour, on pourrait jouer ?» Et il dit « Ouais, pour jouer, faut déposer votre CV. » Et puis, on fait « on n'a pas de CV, parce qu'on n'avait pas de CV, on cherchait même plus de job. On n'a pas de CV, il dit « Non, pour jouer, faut déposer un CV. » Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on part imprimer notre CV dans les imprimantes qu'il y avait dans les couloirs.
Pour jouer à Just Dance. L'histoire n'empêche, pour jouer à Just Dance, il est incroyable déjà.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, et en plus, le pire, c'est que en y allant, nous, étudiantes un peu peste, on était... Ah ouais, alors eux, ils sont vraiment marrants. Hein. Ils demandent absolument un CV. On était en train de pitcher. Ah, super. Ah bah bravo, on doit se marrer là-bas. Et donc, on vient avec notre CV noir et blanc, pixelisé, monde. Et on dit bonjour. Allez, c'est bon, vous pouvez jouer, machin. Et donc, on joue et tout. Et en fait, 3 semaines après, je crois, 2 semaines après, je sais plus. Et donc, j'ai un appel d'Ubisoft. Ouais, votre profil nous intéresse. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée chez Ubi. Et à la base, je pensais pas du tout aller travailler dans le jeu vidéo. Parce que, moi, j'avais un profil de neuroscientifique. Et chez Cisco, j'allais travailler sur une plateforme de conférence. Sur une interface de plateforme de conférence avec la prise en compte, de la charge cognitive, etc. Donc, on travaillait vraiment sur des interfaces. Mais je me disais, qu'est-ce que je vais faire dans le jeu vidéo? Puis, j'avais peur que ce soit juste marketing. Je connaissais pas les métiers du jeu vidéo. Pour moi, j'en étais restée à Amstrad, quoi. Non, plus que ça, mais bref. Et puis là, j'ai découvert tous les métiers. Et en fait, par l'innovation, je pense que vraiment, en innovation, on se rend tellement compte de la vélocité de l'évolution du secteur et de la diversité des métiers qui existent liés aux jeux vidéo, qu'on a un intérêt tellement fort d'un coup, aussi bien professionnellement que même à s'intéresser à ce qui se fait, parce qu'on se dit, ah, ça, c'est intéressant, ça doit être fait comme ci, comme ça, par un tel, pour telle audience et tout ça. Donc, là, ça vraiment, ça a transformé un peu, ça a transcendé mon intérêt, quoi. L'intérêt que j'avais, ah, c'est cool, c'est intéressant, et effectivement, ça se programme, ça demande des compétences techniques et tout ça. Ah ouais, c'est vraiment un univers. Et à l'époque, quand je suis rentrée chez Ubi, on devait être quoi? 5000. Mmh. Donc, 4 fois moins qu'aujourd'hui, quoi. C'était déjà la folie.
Bon, j'ai plusieurs questions. Déjà, qui a gagné la battle de Just Dance?
Moi, sans aucun.
Après, est-ce que elle a eu un appel d'Ubisoft?
Non. En fait, la raison pour laquelle ils m'ont appelé, c'est justement parce que j'avais des compétences en neurosciences. Et en fait, comme j'avais fait j'avais fait une maîtrise en neurosciences, un master en psychopharmaco, et donc du coup le master spécialisé intelligence marketing. En fait, quand je suis rentrée chez Cisco, ce qui était intéressant, c'est qu'ils demandaient ils me disaient, ah oui, vous allez utiliser vos compétences en sciences cognitives. Et moi, déjà, c'était un des seuls postes sur lesquels j'allais pas faire de compromis entre mes deux compétences, aussi bien intelligence marketing que neurosciences. Mais c'était pas à fond les neurosciences. Et en fait, quand on m'a appelé pour travailler en innovation stratégique à l'époque, c'était vraiment pour implémenter à la base notamment la biométrie. Donc c'est-à-dire faire des rapports stratégiques sur qu'est-ce que c'est que l'eye tracking, qu'est-ce que c'est que tel sensor, quelle est la pertinence de ce genre de tech pour le jeu vidéo. Et là, du coup, pour moi, c'était ah ouais, en fait, j'ai pas de compromis à faire. On me propose vraiment de mettre à profit toutes mes compétences, et pour moi, c'était clé, quoi. Parce que forcément, j'allais avoir plus d'évolution. Forcément, ça allait être beaucoup plus intéressant pour moi. Parce que les neurosciences m'intéressaient toujours. J'en avais juste marre de couper des têtes de rein, hein, très franchement. Mais à la base, ça se passait très, très bien en neurosciences. C'est vraiment juste que le quotidien, le sujet était génial. Le quotidien était un peu moins glamour.
Mais c'est fou, ce changement de trajectoire. Là, dire que ça tient vraiment juste à ce détail de, il fallait vraiment déposer le CV. Sur le stand.
Honnêtement, plus random, je sais pas. C'est-à-dire que, ceci dit, avec Just Dance, je pense que Ubisoft a dû être l'entreprise qui a eu le plus de CV jour-là. Ouais. Parce que même des entreprises comme Amadeus qui, pour
des gens. La balle d'antistress.
Ouais, la balle anti-stress. Alors, t'y vas, quoi. Déjà, ce qui est marrant en plus, c'est quand il y a des stands comme ça, c'est que même ceux qui pourraient avoir des goodies sympas, ils font quand même un peu plus la tête parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, c'est un peu mort pour eux. Donc, ça donne encore moins envie d'y aller. C'est encore pire. Donc, mais oui, complètement random, mais tellement contente de la rencontre et de ce que ça a pu ouvrir. Et ouais, c'est un peu ce retour à l'expérience jeu vidéo sous une autre lumière.
Et à la fin, la fierté du papa ou pas? Genre, lui, le jeu vidéo, il...
Honnêtement, je pense qu'au départ, moi, mes parents n'ont pas fait beaucoup d'études. Donc, quand ils m'ont vu ingénieur de recherche à Oxford... et que à la fin je suis partie, je pense que ils étaient quand même un petit peu sceptiques. c'était pas bien sûr, évidemment que tu, enfin, donc je pense qu'ils étaient très sceptiques. Et puis quand je leur ai parlé d'études de commerce pour travailler en marketing, pour eux c'était ah d'accord, tu vas faire des pubs. Donc je pense qu'ils envisageaient pas trop toutes les opportunités. Je pense que sur le coup mon père se disait, bon, j'espère que ça va bien aller. Mais je pense pas qu'il partait de manière acquise que de toute façon, ça allait être sa fierté. Je pense qu'il était plus inquiet de savoir si j'allais être heureuse, si j'allais trouver... Et aujourd'hui, maintenant que c'est ma 8e année dans le secteur, je pense que ouais, il est content que je m'amuse, quoi. C'est plus que lui, c'est... Les jeux, c'était même pas... C'est genre s'éclater, quoi. C'est pas la fierté, ouais, j'ai besoin qu'elle fasse. C'est vraiment.
Non, non, non. Éclaté, non, mais, ouais, je me dis, genre,
ma mère,
moi,
oui.
Je suis fan de jeux vidéo.
Ma mère, oui. Ah, ma mère, oui. Ma mère, elle, oui, elle a besoin d'être fière. Bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Oui, elle a besoin d'être fière, d'avoir sa fille, qui fait un bon métier, tout ça. Mon père, ouais. Moins, lui. Si tu t'éclates, c'est ce qui est bon. C'est que c'est bon. Même à l'école, ouais. Ils mettaient la pression sur les notes et tout. Mais par contre, je pouvais être collée et tout. Ils mettaient au prof, sur tous les mots que je recevais, parce que j'en avais un paquet. Ils signaient, ils mettaient « Soyez sûrs de notre soutien ». Mais en fait, ils me disaient « Écoute, tant que t'as des notes, amuse-toi, c'est fait pour ça ». C'est bon. Mais en même temps, lui-même, quand j'étais jeune, il me racontait, lui, ses 400 coups. Et franchement, la question du jeu, ça a toujours été son truc. Et je pense que lui, il aurait adoré évoluer dans le secteur du jeu vidéo. Ça, c'est sûr.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis la fierté, dans le sens où, tu sais, quand t'aimes beaucoup un jeu vidéo, ou quand t'aimes les jeux vidéo, même en général, quand tu vois quelqu'un évoluer dedans, tu sais, c'est toujours genre, oh, ah bon, comment ça se passe? T'es toujours hyper curieux là-dedans.
Ouais, et là-dessus, il s'intéresse beaucoup sur tous les sujets, notamment de la user research, puisque voilà, c'est là où on travaille.
Ouais.
Et en fait, par exemple, quand il sait que on fait des recherches sur la toxicité, il dit « Ah ouais, donc ça va vraiment en profondeur sur des dimensions qui, lui, en tant que joueur, lui paraissent pas anecdotiques, mais tu sais, genre, il s'imagine pas qu'il y a une personne qui travaille là-dessus, potentiellement à plein temps, avec ce sujet comme l'objectif. Ça, c'est des trucs qui se plaît à découvrir. Et je pense que ça aussi, c'est un côté, au-delà même de l'intérêt hobby jeux vidéo, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, mais
les dessous, un peu.
Enfin, la diversité des métiers. Enfin, je sais pas. Honnêtement, à part des métiers genre santé et encore, je me demande quel métier tu fais pas aujourd'hui en jeu vidéo. Si tu prends toutes les entreprises digitales.
Et encore, ouais, comme t'as dit, il y a des ergonomes et des gens qui sont là, genre, enfin, il y a quand même des gens de la santé. Même, je suis bizarre, on a notre propre médecin. Donc, ouais, c'est drôle.
Ouais, il y a des médecins, des profs de sport, mais même au-delà de du maintien de l'entreprise et de la structure de support. Je veux dire, il y a des historiens, tu vois.
Oui, ouais, c'est vrai.
Il y a des historiens en innovation. Nous, donc moi, j'arrive neuroscientifique, je suis avec quelqu'un qui travaille en business. On a eu quelqu'un qui venait de philosophie. Tu te dis, t'imagines pas ça quand t'es pas dans l'industrie et t'as pas été proche de l'industrie. Je me dis, mais en fait, quel métier il y a pas aujourd'hui dans le secteur du jeu vidéo? Et voilà. Je dis médecin, et encore, parce que il se pourrait que pour un jeu, il suffit qu'il y ait un personnage médecin, puis à un moment, il y a des médecins qui vont être consultés, tu vois.
C'est fou, ça traduit vraiment aussi, je pense, l'évolution du secteur en tant que tel. Avant, c'était peut-être vraiment cantonné à peut-être quelques professionnels, juste les programmeurs, etc. Et là, c'est devenu tellement une industrie énorme que il y a des métiers pour tout, et c'est hyper détaillé, et comme tu le dis, ouais, c'est hyper varié, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, t'as à la fois l'évolution de la qualité des expériences et de leur profondeur qui te pousse à du réalisme ou même quand c'est de la fiction à de l'expertise sur un univers que tu vas créer et donc de quel genre il est, de quel genre il est pas et comment il crée sa propre identité, etc. Donc tout ça, que ce soit artistiquement, que ce soit de manière narrative. Et puis après, le gameplay, il y a tellement de... Tu vois, donc il y a des questions d'apprentissage et puis il y a des questions, y a du combat, il y a du ci, il y a du ça. Donc, en fait, il y a tellement de niveaux et tellement de granularité sur chacun des aspects qui vont constituer un jeu que il y a trop de métiers, il y a énormément de métiers. Et en plus, l'audience se diversifie, donc les expériences doivent se diversifier. Donc, évidemment, là, enfin voilà, même ma mère, qui à la base, jusqu'à il y a peu de temps, envoyait encore pour envoyer un chiffre, elle écrivait toutes lettres sur un SMS. Donc, qui était pas genre Texévi, tu vois. Même un clavier de numéro, c'était pas encore son truc. Même maintenant, en fait, elle joue en ligne avec d'autres gens, quoi. sur PC. Scrabble, mais quand même.
Non, mais quand même, quand même.
Mais bon, elle joue.
Scrabble Battle Royale, t'inquiète.
Ouais. Bah, elle, toxicité, je peux te dire que ça rigole pas sur Scrabble.
mais c'est un langage soutenu, du coup, ça va.
Ouais, alors, soutenu à l'écrit. Hein. Parce que oui, la réunion, moi, nous, on l'entend. Tu sais, c'est comme en voiture, en fait. C'est, t'entends que le klaxon, mais tu sais, à l'intérieur de la voiture,
ouais,
t'as toutes les insultes les plus immondes. Ma mère, c'est pareil. L'audio, heureusement, ils l'ont pas sur Scrabble, ou alors elle l'a coupé, parce que sinon, il y a longtemps qu'elle serait flaguée, tu sais. Alors, t'es bannie du truc.
T'es bannie de Scrabble, de Scrabble Online.
Enfin, pour ceux qui comprennent le créole.
Donc maintenant, enchaînons et parlons du deuxième jeu que tu nous as soumis. Cette fois-ci, on part en 2006 et c'est LocoRoco, donc jeu de plateforme développé par SE Japan Studio, sorti sur PSP.
Ouais.
Comment t'es arrivé à ce jeu? Dis-nous tout.
Alors moi, en fait, quand j'en choisis un jeu, soit c'est un jeu qui m'a déjà été recommandé parce que c'est un super jeu. Soit je trouve ça mignon, t'sais, je regarde et je me dis oh, ça a l'air mignon, et LocoRoco, alors plus mignon, c'est une provocation de mignonnerie, enfin je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est vraiment mignon plateforme, et puis alors après mignon mais quand même de très bonne qualité, enfin c'est un jeu qui a eu plein de récompenses sur à la fois sur les qualités d'interaction et aussi la musique. Et en fait, je sais plus où c'est que j'avais vu un extrait, peut-être que j'ai vu quelqu'un jouer, je sais pas. Et je me suis retrouvée à acheter ce jeu-là sur PSP, alors que j'avais acheté d'autres jeux, genre l'équivalent de Wipeout. Non, l'équivalent de Wipeout, c'est un jeu sur...
Ah, ouais, je l'avais fait aussi.
Ouais, bah le premier, c'était Prodigy qui faisait la bande-son. Vous vous rappelez de ça ou pas? Vous étiez...
Wow. Je savais pas que c'était lui, mais ok. C'est où?
Bah, Wipeout 99, je crois. Enfin, ça devait être un jeu donc qui était sur PlayStation. Et en fait, c'était Prodigy qui faisait la bande-son. Et donc, c'était ces espèces de vaisseaux là qui étaient au-dessus du sol. Là. Et donc, c'était un jeu de course. Mais,
ouais, c'est F-Zero un peu. F-Zero GX.
Ouais, mais alors, le truc de dingue. Et donc, je crois que j'avais acheté ça, des jeux comme ça. Et là, LocoRoco, je me dis, ah bah tiens, un petit jeu mignon, ça allait diversifier les quelques jeux que j'avais. Mm-hmm. Et en fait, le premier truc, moi, qui m'a accroché, alors que je pensais que c'était ce qu'on voyait, c'était la bande-son. Mais la bande-son, elle est incroyable. Donc je recommande à tout le monde d'aller sur YouTube et juste de se mettre une bande son de LocoRoco, même si c'est pas forcément pour regarder, mais c'était moi ça me faisait même penser à R. Vous connaissez ce groupe un peu électro qui est français?
Ouais, groupe français, ouais, exactement, ouais. French Touch un
et
peu
ben, ouais, c'est ça. Et ben moi ça me faisait un peu penser à ça, LocoRoco. Si t'enlèves les gazouillis enfantins, et même avec d'ailleurs, ça me fait penser à R. Et les gazouillis enfantins d'ailleurs, ça pourrait même se rapprocher de Justice. C'est le groupe un peu disciple de Daft Punk, on peut s'exprimer comme ça, mais
RIP Daft Punk.
Non, il y a une chanson dance. Attends, c'est comment? Do the dance. Non.
Ok. Ouais, c'est ça.
Et ben voilà, avec ce truc un petit peu enfantin, et ben
LocoRoco. Hyper catchy en plus.
Ouais. Et ben LocoRoco, la bande son, elle était génialissime. Alors à la base, je crois que c'est un jeu qui est plus pour enfants. Mais alors là, pour le coup, on s'est pas foutu d'eux avec la bande-son qui est plus qualitative que d'autres jeux. Puis là, tu vois, je me dis, en fait, la bande-son, elle est tellement importante pour moi. Et donc j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Et alors, du coup, c'est un jeu de plateforme où on est une boule. Et en fait, on absorbe d'autres boules et on grossit. Puis on s'atomise, on se divise en fonction des passages qu'on veut faire. Alors celui-là, pour le coup, je me souviens même pas l'avoir fini. Pourtant, je suis quasi sûre de l'avoir fini. J'ai joué tellement dans les transports avec la nausée et tout ça, ce truc. parce qu'en fait, à l'époque, j'étais entre le Danemark et l'Angleterre. Donc, je partais du Danemark pour aller en Angleterre. Bah, c'était pour aller bosser à Oxford. Et donc, je jouais beaucoup à Locoroco dans les transports, que ce soit train, avion, voiture, bus et tout sur PSP. C'était génial. Et franchement, moi, j'étais tellement... la PSP, c'était vraiment de la super qualité en portable. Et franchement, là, j'ai la Switch. Et c'est marrant parce que, alors peut-être qu'en loading et tout ça, il y avait peut-être plus de temps et tout, mais moi, ça me fait le même effet. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils ont eu la Switch, se sont dit « Oh là là, c'est fou, c'est portable !» Vous avez eu la PSP, les gars ? Alors, c'était la PSP2, peut-être, que j'avais. À l'époque, ça devait peut-être déjà être la PSP2. Mais Locoroco, c'était vraiment un jeu c'était hyper frais, un gameplay ultra simple, mais tellement qualitatif que qu'on se lasse pas des heures et des heures. Il y avait encore une fois aussi bien dans la bande son que des décors. Enfin, dès qu'on passait à un niveau, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment hyper beau. C'était tout de suite paf, un autre univers. Et j'ai rarement vu un jeu comme ça pour enfants fait avec autant de qualité. Alors quand je dis pour enfants, c'est parce que je crois qu'il a été fait pour enfants, mais un jeu aussi simple. Avec une qualité comme ça de fou sur les sons, aussi bien sur la musique, mais aussi sur les sons. Et d'ailleurs, de toute façon, s'il a eu des récompenses pour l'interactivité, ça veut dire que l'interface était géniale, que les retours feedback, etc., devaient être excellents. Et donc là, ça suppose aussi que dans les feedbacks, il y a forcément l'aspect son. Et moi, je reste encore un peu béate devant autant de simplicité et de qualité. C'est un peu Disney et Nintendo rassemblés dans un jeu simple, quoi. Donc là, c'est-à-dire hyper émotionnel, la Disney hyper qualitative sur le visuel, etc. Et en même temps à jouer super simple, c'est-à-dire que Locoroco, il n'y a pas besoin d'apprendre, t'as pas besoin d'un tuto, je crois même qu'il y en a quand même, mais t'as pas besoin du tuto. Et vraiment à la Nintendo avec quelque chose de très incrémental, très, tu vois, où l'onboarding, en fait, tu le sens pas. Et t'es directement, t'as tout de suite une qualité d'expérience qui est au top. Ça, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les jeux Nintendo. C'est que même si ça fait 30 minutes que tu joues, t'es déjà avec énormément de qualité de tout.
Tu connaissais, toi, Yann ? Moi, je connaissais pas du tout.
Ouais, moi je pense que j'avais déjà dû le voir sur les étagères, mais je l'avais jamais acheté sur PSP. Mais il m'a fait penser à World of Goo en termes de design. Mais je sais pas si vous avez déjà joué à ça. C'était un petit jeu indépendant aussi. Et pareil, en fait, en termes d'ambiance, bon, c'était beaucoup plus dark. Il y avait pareil des petites boules, c'était des cassettes un peu. Mais c'était genre tout noir, sombre.
Ah oui, c'est plus dark, quoi. Locoroco, c'est...
Ouais, là, ça a l'air d'être la version soft. Pour enfants.
Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est ça...
En termes de couleurs.
Oui.
Bah, en fait, c'est ça qui est marrant, parce que tu vois, quand on dit pour enfants, c'est pour ça que je dis, je sais pas s'il a été fait pour enfants, peut-être que oui, mais c'est... Est-ce que parce que c'est frais, parce que c'est c'est forcément pour enfants, tu vois.
Non, mais je pense que le design de la couverture, ça fait un peu tu sais, ça fait un peu genre livre de coloriage un peu.
Après, pour le coup, parmi les récompenses qu'ils ont gagnées, il y a vraiment une récompense genre meilleur jeu pour enfants, tu vois.
C'est ça.
Des recherches dans les BAFTA, genre British Academy Video Games Awards. Ils ont eu un jeu meilleur jeu pour enfants, quoi.
En plus, les BAFTA à l'époque, c'était vraiment, moi j'accorde beaucoup de crédit aux BAFTA. Alors, peut-être que je les suis moins ces dernières années, mais les BAFTA à l'époque, c'était quand même, ils récompensaient pas n'importe qui.
J'ai fait des recherches là-dessus justement sur les jeux qui ont été récompensés aux BAFTA. On retrouve notamment GoldenEye 007, Zelda Ocarina of Time. Le tout premier Call of Duty en 2003, Tony Hawk's Pro Skater 2, Portal 2, The Last of Us, sont vraiment des jeux qui ont plutôt bien marqué l'histoire du jeu vidéo, quoi.
Ouais, on sent que il y a de l'intégrité dans leur attribution de récompenses, et ouais, ça confirme ouais un, un espèce de gage de qualité sur ce jeu. Et enfin moi, ce jeu-là, je crois pas qu'aujourd'hui il y ait de version récente. Mais ça, par exemple, il sort aujourd'hui.
Mais voilà. Il est sur PS4.
Mais non.
Je crois qu'ils ont fait un genre de remaster en 2017, ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Ouais, ouais.
Ouais, mais du coup, c'est pas portable, tu vois. Moi, ce que j'aimais bien, c'était non. Portable. Ça, je pense aussi que ça joue sur le type de jeu. Enfin, parce que le fait d'avoir un jeu mignon, etc., c'est pas forcément... t'as pas forcément besoin d'être tranquille chez toi le soir, tu vois.
Pour la grande télé.
Pour les profits. Exactement. Et le fait que ce soit portable d'avoir accès à ça. Par contre, ouais, peut-être que si c'est sur PS4, peut-être que ça me plairait d'y jouer et peut-être d'ailleurs de faire pourquoi pas jouer ma fille. Mais peut-être que j'en tirerais pas autant profit que le. C'est pas sans la nausée, ça vaut pas le coup. Sans la nausée des transports, c'est plus le même jeu.
C'est là où le côté versatile de la Switch il est cool parce qu'on a tous un peu nos a priori sur les jeux, ceux où on préfère jouer. Sur une télé ou ceux on préfère jouer dans les transports, mais tu vois, genre un Breath of the Wild, bah j'ai joué dans les deux cas, je préférais largement jouer sur ma télé.
Oui.
Mais quand je faisais des puzzles, tu vois, quand j'étais dans les donjons, bah, j'adorais faire ça, plutôt genre je prenais le truc à la main, puis c'était plus simple. Et comme un Mario, le tout dernier qui est sorti, c'est sûr que je vais le préférer sur en version portable, je pense, que sur ma télé, tu vois.
Donc les puzzles, tu les faisais aux toilettes, en fait.
Ah là, les puzzles, clairement. Les puzzles, c'est... Je la prenais avec moi, tu vois. Je te... Allez,
non, mais dis-le.
Un coup de toilette et c'est terminé.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que il devrait y avoir... Tiens, en parlant de recherche, je me demande si y a pas des gameplays. Donc pas des jeux, mais ouais, des gameplays, parce que Zelda, il y a plein de gameplays. Où en fait, t'as... Ouais, mais ça, moi, je préfère y jouer en version portable / mobile.
Mmh.
Et des jeux, ouais, mais ça, sur grand écran. Je pense que... Ouais. J'imagine que les jeux, que Nintendo, ils doivent avoir une bonne idée de cela, j'imagine. Mais en tout cas, ce serait hyper intéressant à tester, notamment pour voir quel jeu, en fait, pourrait aller sur mobile avec le cloud. Et du coup, comment et sur quel type d'interface mobile faudrait mettre le paquet, ça doit être hyper intéressant. En tout cas, Locoroco, console PS4, ok, pourquoi pas aller voir ça. En plus, il doit pas être très cher, j'imagine.
Tu veux qu'on te donne le prix?
Non, tu me donnes tout court déjà. mais par contre, ouais, franchement, c'est tellement bien comme ça, tu sais, avec ton écran, la boum, boum, puis t'es la boule, là. C'est tellement sympa en portable, quoi. Moi, j'adore les expériences de jeu que j'ai pu avoir, tu sais, en portable, quoi. C'est à moi, c'est machin, je suis indépendant, je fais mon truc, je perds pas de temps parce que je suis déjà envoyé. Mais c'est tellement top, quoi.
Ouais.
Tellement top. Mais là, je vais peut-être me racheter une PSP, je l'avais vendue à l'époque. Et puis ça doit pas coûter trop trop cher, j'imagine. Comme ça, ouais, mon conjoint se défonce sur Warzone et moi le Kuroko à côté, mais pff, la vie amoureuse de dingue.
Et juste mini comment dire, point noir au tableau, je connaissais pas du tout. Et moi, pour la première fois, donc en faisant les recherches, j'ai regardé des vidéos de gameplay, etc. Et il y a un truc qui m'a un peu interpellé, c'est en découvrant le jeu, donc les ennemis.
Ouais.
Je sais pas si tu vas me suivre là-dessus. Donc c'est vraiment un monde hyper coloré, dessin animé, les personnages sont un peu en mode barbe à papa, différentes formes, différentes couleurs, etc. Et les ennemis sont un tout petit peu problématiques parce que c'est les seuls personnages noirs. Et quand on regarde bien, ils sont très noirs, avec des lèvres rouges un peu surdimensionnées. Un rouge hyper vif, des dents un peu carnassières.
Oh,
du coup, j'ai directement pensé au blackface, tu vois. Et je me suis dit, ok, c'est un peu chelou. Ouais, j'ai un peu fait des recherches sur Internet, etc. Et j'ai trouvé des articles. Il y a notamment un blogueur spécialisé dans les jeux vidéo qui, en 2006, avait sorti un article. Et du coup, il accusait dans son article Sony d'un racisme institutionnel,
ouais.
Même si c'était un peu inconscient. Ouais. Et il soulignait aussi le fait que c'était pas le premier jeu nippon à avoir ce genre de stéréotype. Il parlait d'autres jeux, dont un Megaman avec un personnage un peu similaire. Et donc Sony a répondu à ce truc-là, et ils ont dit que ils se sont défendus bien évidemment vigoureusement, et ils disaient que c'était un univers fantasy et qu'il y avait aucun lien avec la réalité. Mais dans le cas de Begaman, ils ont changé les couleurs du personnage, mais pour le Coroco, ils ont laissé le personnage tel quel.
Bah moi j'avais entendu sur l'autre jeu, et c'est marrant parce que ce qui est grave, c'est que tu vois, donc bah déjà moi je suis une femme noire, mais c'est que maintenant que tu me le dis, je m'en suis même pas rendu compte en y jouant. Et en fait, et tu sais, c'est marrant, c'est comme des tas de médias en fait avant, où en fait, tu sais, ton modèle mental, il est tellement formé avec tout ce qu'on te transmet, que tu vois même plus que c'est un problème, tu vois, genre aujourd'hui quand on parle de la série Friends, on oui. parle d'une série qui est pas du tout inclusive, etc. Et en ouais. fait tellement, mais tu vois, je te parle de Prince of Persia, faut comprendre que moi qui suis née début des années 80, j'ai jamais vu avant Destiny's Child une femme noire à la télé, tu sais, qui avait ou le premier rôle qui était sur le devant de la scène.
Moi je regardais Phénomène Raven, c'est le seul truc, quand j'étais sur Disney, la petite Phénomène Raven, c'était trop mon kiff.
Ah ouais, je connais pas, mais ouais. Tu vois, moi j'ai jamais vu, il y avait Whitney Houston, mais on la voyait pas beaucoup à la télévision.
Ouais.
En tout cas, à mon
époque. Surtout en Europe, quoi.
Ouais, mais j'ai jamais, en tout cas, des on va dire, de ce que moi je consommais, tu vois, pour moi, je n'avais jamais vu ça. Tu sais, je suis née, c'était des Barbies. C'est-à-dire que pour moi, pendant des années, dans mon inconscient, voire conscient, pour être jolie, fallait être blonde. Tu sais, genre.
Fou, hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc là, tu vois, quand tu me parles de Loco Loco, je me dis, 2006, j'avais quand même 24. Et en fait, je me dis, c'est marrant parce que ça m'a pas choqué, je pense, tellement abruti par le manque de diversité que j'avais pu avoir dans les médias avant. Et ça m'étonne malheureusement pas qu'une grande institution japonaise se défende vigoureusement de cela aussi, parce que de manière systémique, il y a encore du chemin à faire, on va dire.
Carrément. Et je pense qu'avec nos yeux aussi aujourd'hui, et la façon dont la société s'est emparée de ces sujets, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus conscient de ça, et c'est quelque chose qui revient souvent en actualité, donc on s'en rend compte plus facilement.
Ouais, quand t'as dit ennemi, j'ai eu un petit,
un petit flash.
Non, mais c'est vrai.
Et pour le coup, je vous montre à l'image, là, ça c'était un des persos, tu vois.
Ah ouais, non, c'est pas possible.
Dans le podcast, je réussirais à mettre un lien vers ça, mais ouais, c'est.
Mais c'est pas possible, quoi. Mais tu vois, déjà, moi, j'ai jamais joué à un jeu vidéo qui était casual, dans lequel je pouvais incarner un personnage noir principal. Je parle d'un jeu casual. Hein. Et une femme noire, voilà, autant dire que bon. Faut vraiment que je le fasse exprès pour aller trouver là, mais j'ai jamais trouvé déjà une fille à part la princesse Nintendo, franchement.
Samus, c'est mon exemple. Mais ouais, je suis d'accord qu'il y a
c'est pas... compliqué, ouais. Et ça c'est vrai que par contre dans le secteur du jeu vidéo, c'est un énorme problème. Ouais. En fait, c'est un énorme problème, et parce que dans l'industrie, les bases d'employés ne reflètent pas leur audience. Il y a une étude de 2015 de Business Insider qui montre qu'il y a plus de gens de couleur qui ont des consoles aux États-Unis que des blancs. Donc dans les gens de couleur, bah ça inclut les noirs, les latinos. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se reflète dans la vaste majorité des fleurs de prod de jeux vidéo dans le monde, tu vois. Alors après, il y a des studios, ils vont être particulièrement inclusifs, il y a des studios aussi aujourd'hui qui sont financés spécifiquement pour faire émerger des talents noirs notamment, et on ne peut que dire que c'est super, mais malheureusement dans les gros studios aujourd'hui, ça reste voilà. Moi, cette année, pour la première fois, juste avant, en fin 2020, pour la première fois, je n'étais pas la seule femme de couleur dans mon équipe. Et j'avais déjà été dans des équipes de plus de 80 personnes. C'est la première fois. Ouais, la première fois. Je peux dire qu'elle est arrivée, la pauvre, j'ai mis le grappin dessus. Salut, ça va? Comment t'es? Tu viens de... Et Ashley, si tu m'écoutes, désolée. Mais c'est, enfin, moi, ça m'a émue. Hein. Moi, j'en ai pleuré, tu vois. J'étais tellement... Et je pensais même pas que j'allais... En fait, c'est au moment où je me suis dit, mais c'est marrant, pourquoi ça me fait ça? Je la connais pas. Pourquoi? Et après, j'ai réalisé, mais en fait, c'est la première fois que tu vas faire un call avec quelqu'un et pouf, t'as quelqu'un qui te ressemble. Oh, j'ose même pas imaginer si on n'était pas en work from home et que j'avais pu être dans une salle de réunion avec une autre femme de couleur, mais que se passe-t-il? Enfin, je veux dire, c'est jamais arrivé. Et je me disais, mais à qui? Tu sais, est-ce que un homme blanc, ça lui est arrivé de jamais être dans une salle de réunion avec quelqu'un qui lui ressemble? Genre, c'est je pense que ce serait intéressant de, tu sais, de voir comment ils peuvent s'imaginer l'émotion que ça puisse faire à d'autres, quoi. Mais malheureusement, là, tu vois, je me rends compte à quel point dans les jeux, c'est encore un problème. Et bah, du coup, qu'est-ce que je fais? J'achète le Roku ou pas, là? C'est vrai que ça me pose question, tu vois. Parce que c'est trop le brainwashing sur ça, quoi.
Carrément. Après, c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. Je voulais juste le souligner parce que, tu vois, je sais que tu es impliqué et que tu t'exprimes souvent sur des sujets liés justement à l'inclusion, à la diversité et tout.
Ouais,
mais ouais, sinon, comment un détail qui peut paraître mineur comme ça, au final, a vraiment des implications. Et bah, comme tu le dis après, toi, le fait que tu aies travaillé récemment avec une personne qui te ressemble, bah, la représentation compte vraiment, quoi.
Bah, très franchement, ce qui est intéressant, c'est que c'est de pas se rendre compte de ça. C'est-à-dire que là, quand tu dis un détail qui pourrait être anodin, je l'ai même pas noté. Il y a que quand tu me l'as dit aujourd'hui et qu'on refait ce procès de se rappeler de l'expérience. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai, en fait. C'était que ça. Et j'ai eu cette démarche sur tellement d'autres choses dans ma vie, sur tellement, même, tu sais, de réflexions qu'on m'avait faites. Bah, exemple, non, c'est bien, ça se passe super bien avec toi, mais t'es trop assertive. Et moi, avant, je me dis, ah ouais, c'est vraiment, faut que je fasse attention, je suis trop assertive. Puis aujourd'hui, je me dis, what the fuck, en fait, c'est quoi? Pourquoi on me dit ça? En fait, c'est juste parce que quand en fait, je suis trop sûre de ce que je dis et que j'incarne pas l'autorité scientifique malgré mon parcours devant des gens qui, tu sais, qui n'ont pas du tout ce background là et qui ne, et ben du coup je suis perçue comme bossy ou assertive. Et voilà, il y a des tas d'expériences sur lesquelles je me fais la réflexion depuis très récemment. Bah depuis 3-4 ans, pour être franche, je pense que j'ai beaucoup plus appris sur diversité et inclusion depuis 3-4 ans que durant toute ma vie, quoi. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir été exposée justement à ce type d'expérience qui n'était donc pas inclusive, voire à connotation intentionnelle ou pas discriminante.
Carrément.
C'est hyper intéressant de parler de ça, du coup. Tu vois, c'est marrant parce que je pensais pas du tout qu'on allait aller sur ces sujets. Et là, t'as trouvé un très bon point. Déjà, qui va me consoler de pas forcément jouer à Loco Roco tout de suite maintenant. Mais qui vraiment fait que, qui aussi justifie la raison pour laquelle, sur tous ces sujets de diversité et d'inclusion, j'ai vraiment aussi, beaucoup d'empathie pour les gens qui apprennent et qui ont pas tu sais, qui, même s'ils ont malgré eux contribué à un système existant, l'ont pas fait exprès, on a avec ça. Ça a été mon cas, la preuve. Mais aussi je pense que c'est important de ne pas stigmatiser le manque de connaissances sur le sujet, parce que ce serait de la mauvaise foi. que de penser que on aurait dû tous savoir depuis qu'on est né ou depuis qu'on est enfant, parce que non, on apprend tous beaucoup plus depuis quelques années, encore plus, ouais, avec la mort de George Floyd, etc., des événements qui font que tout le monde va se pencher sur la question, que du coup on va être exposé à beaucoup plus de contenu sur ces questions-là. Et c'est vrai que là, tu vois, je vais me rappeler de ça pour expliquer pourquoi c'est important, en fait, d'avoir de l'empathie envers une autre identité que la mienne, qui n'a pas forcément eu l'intention d'eux. Et parce que justement, même moi, tu vois, j'ai joué à Locoroco en étant super contente, super, même fière, tu vois, et j'ai pas vu ça passer parce que le milieu socio-culturel, en fait, m'avait appris au sens latent, très très comme ça, subtil, mais pourtant présent partout, que c'est pas grave, en fait, de pas avoir de noir ou de les avoir que de manière caricaturale.
Ouais, c'est clair, il y a un vrai travail de déconstruction à faire, je pense.
Hyper intéressant.
Super intéressant, en tout cas.
Yes. Ouais. Enfin, je pense qu'on pourrait développer longtemps sur ces sujets.
Carrément.
Je crois que je diverge et j'en suis désolé.
Non, mais c'est super intéressant. Mais voilà, petite parenthèse refermée suite au personnage ennemi de Rocoroco. Cool. Donc après cette petite parenthèse et un mini problème technique, on est de retour pour conclure sur le troisième et dernier jeu de ton top. Qui était Mario Kart 8, sorti en 2014. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter ce jeu de course Nintendo ? Je ne pense pas. Donc on peut directement enchaîner sur tes souvenirs et les quelques anecdotes que tu as sur le jeu.
Mario, là c'est marrant parce que du coup, ce jeu il sort à un moment où je suis un petit peu plus consciente des questions de diversité et inclusion, mais malgré ça... Je reste à penser que sur beaucoup de jeux Nintendo, y compris Mario, ce qui est incroyable, c'est le peu de besoin d'onboarding malgré quand même la richesse gameplay. Et ça, moi, j'adore. Je compare vraiment ça à Pixar, tu vois. C'est-à-dire que tu as toujours plusieurs niveaux de lecture, mais tu viens comme t'es et en fait, c'est bon, tu peux jouer, etc. Enfin, c'est hyper hyper intéressant. Ce que j'aime aussi, c'est que les jeux Mario, hein, les feedbacks sont tellement cohérents, aussi bien avec avec la marque, en tout cas l'univers Mario, que les actions spécifiques et uniques à chaque fois que... Enfin, t'as une bande-son, tu sais tout ce qui se passe. Tu sais, sans être expert Mario, être expert Nintendo, tu n'écoutes que la bande-son d'un jeu Mario, tu sais exactement ce qui se passe. Et donc moi, pour moi, Mario Kart, c'est vraiment me replonger dans cet univers à la fois familier, mais avec toutes les possibilités sur la console. Alors par contre, tu parlais de 8. Moi, je parlais du Mario Kart sur Switch.
Ok. Ouais, bah, ça va être le 8 Deluxe.
Ouais, c'est le 8 Deluxe. Il est sorti, ça, il a dû sortir genre
2010.
Deux ans après.
Ouais. C'était juste pour au cas où. Et donc, en fait, sur Switch, pour moi, c'est en tout cas ce qui est impressionnant, c'est à la fois la qualité pour un jeu sur une console portable et aussi la richesse des univers sur cette édition là c'est hallucinant. Enfin, on peut parler de graphisme, etc., mais franchement c'est incroyable la beauté graphique, la richesse des univers, les clins d'œil aussi. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu, il y a même un petit peu de dérision. C'est pour ça que je compare ça à Pixar. Il y a même un petit peu de dérision dans certains univers, je trouve. C'est très ultra qualitatif. Pour moi, on est vraiment, surtout qui aime bien, voilà, qui a quand même un œil expérience utilisateur, voilà, que je vais pas nier, que je peux pas éteindre cette partie-là non plus complètement. Quand je joue à Mario Kart, pour moi, on est sur une expérience incroyable. Et j'avais déjà cette sensation-là d'excellence au terme UX, expérience utilisateur sur Zelda après l'onboarding, parce qu'il y a encore beaucoup de textes sur Zelda. Mais Mario Kart, c'est incroyable. Les sons, les effets, incroyables. Alors du coup, ça, j'y joue avec mon conjoint. Donc bien entendu, quand on y joue, il n'y a plus de mariage, plus de respect, plus d'amour. Tout ça, c'est fini, ça. C'est terminé.
Tous les coups sont permis.
Tous les coups sont permis et on ne se connaît plus, en tout cas que en tant que... Donc c'est terminé, c'est fini. Mais de toute façon, dès qu'on joue, que ce soit FIFA, même Just Dance, alors lui, il danse super bien, il danse la salsa et tout. Mais alors Just Dance, c'est fini. J'ai beau transpirer, je sais que j'aurai des courbatures, mais c'est fini. Il n'y a pas moyen que je perde ma dignité, tu sais, affaiblir par un amour que je nie. Donc Mario Kart, pour moi, c'est vraiment ça. Alors c'est vrai que j'y joue vraiment, comme beaucoup, en mode voilà, jeu de société. C'est bien, tiens, on se fait quoi ça? On se fait une partie d'échecs, ou une partie où on joue aux échecs un peu. Donc c'est ça ou mais je trouve que c'est même mieux que FIFA. Je trouve que c'est plus je trouve ça beaucoup plus les effets, tout est tellement plus beau, tout est tellement plus on peut y jouer quelques minutes, il y a tout de suite une explosion d'effets, c'est tellement qualitatif d'entrée, c'est rapide, il y a plein de niveaux, des univers tout de suite très différents. C'est tellement simple, c'est tellement ouvert, c'est ultra généreux comme jeu. Par rapport, alors évidemment, les premiers Mario Kart pouvaient pas bénéficier de telles avancées technologiques. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est un des jeux de course où même les univers en fait dans lesquels baignent les circuits sont les plus divers et riches. Je veux dire en termes de relief. Parce qu'il y a énormément de relief en termes de
de
trajectoire. Ouais, c'est ça. Ouais.
Moi, les courses là de F0, tu sais, il y en a deux là. J'étais fou. Genre, j'ai joué là à Noël avec mes deux frères et puis on s'est tapé dessus sur ces courses là parce que nous, on jouait sur le jeu, par Mario Kart, quoi.
Ouais.
Et franchement, c'est vrai, hein, c'est vrai, les circuits sur celui-là, ils sont. Mais Mario Kart, il y a toujours une innovation. C'est comme les Mario, en fait, la façon dont ils sont faits. Nintendo, il veut toujours que d'un à l'autre, il y ait une innovation. Il y a quelque chose en plus, tu vois. Et alors, je sais pas comment ils sont pas à court d'idées, quoi. À un moment, je sais pas comment ils vont faire, mais bon, après, ils tentent parfois des choses, genre, tu sais, Sunshine, Mario Sunshine, il avait genre sa buse d'eau, là.
Oui.
Bon, ils ont tenté, ils l'ont retiré. Voilà, tu vois, c'était l'innovation, il y a plus d'innovation, et puis tant pis. Mais c'est vrai que sur Mario Kart, je vois pas.
Mais est-ce qu'ils ont pas atteint l'apogée là avec celui-ci? Moi, j'ai du mal à voir
bonne chose.
Ouais.
Pour avoir joué à beaucoup de Mario Kart aussi, celui-ci.
Avec Double Dash, ouais. Avec celui sur GameCube, c'était marrant d'être à deux aussi.
Oui, c'est clair. Je pense que okay. Tout le monde a.
Tu pourrais ressortir un truc comme ça, un mode.
Ça c'est vrai.
Le binôme, un petit devant, un grand derrière, enfin, fallait équilibrer et tout. C'était marrant.
Tu sais comment tu changeais du conducteur à l'autre truc?
Oui.
Fallait que les deux appuient sur Z en même
temps. Au même temps, exactement.
Je me rappelle très bien quand je jouais avec mon pote, on était à deux, et on faisait 3, 2, 1 Et là, on appuyait tous les deux sur le bouton, c'est genre switch, tu vois.
La coordination.
C'est limite, c'est un événement religieux, limite, tu vois. T'avais l'impression que...
Mais à l'époque, c'était encore du multijoueur local, quoi.
Non, mais on jouait tout seul, c'était pour faire la campagne, parce que la campagne, tu pouvais la faire tout seul, mais à deux, dans une voiture.
Ouais. Ça, c'est cool. C'est vrai, bon, ça, moi, tant que je risque pas mon mariage, ça m'intéresse pas, mais
Alors, en vrai, avec FIFA, t'es pareil, hein, parce que putain, moi j'ai jamais autant ragé que
oui.
Sur FIFA.
Ah, mais t'as pas appuyé, oui, du coup, en fait. Ouais. C'est comme dans les vraies voitures, du coup.
Non, mais c'est n'importe quoi, là, je vais la récupérer là-bas.
Non, si. Mais vraiment, comme tu disais, Chris, après celui-là, Là, c'est vrai qu'on se dit, mais ah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux? Parce que pour le coup, ouais, il y a vraiment tout, quoi. C'est trop riche. Moi, là, en fait, ce qui m'a impressionné, c'est chaque nouvelle map, t'es, oh, ah ouais, et tu joues, t'es pas déçu, hein. Tu joues, ah ouais, carrément. Et c'est tellement généreux. Comment tu fais après ça? Alors peut-être ouais, qu'ils ont clair. Tellement de... Après, bon, après, voilà, ils en sortent pas tous les ans. Hein.
Non, mais après, je me dis, genre, au pire, tu sais, quand t'as atteint ton apogée, juste faire des nouveaux circuits, tout le monde est content, déjà.
Ouais, ou enrichir le gameplay, comme tu dis, faire des jeux en où tu joues à deux dans la
même. Ouais, avoir plus de modes de jeu, ouais. Tu peux avoir
plus de modes de jeu, mais là, c'est vrai que, en tout cas, en termes de map, j'ai du mal à imaginer des maps plus riches par map et plus diverses. Là, j'ai ça, vraiment du mal. Parce que même dans des jeux de course, jeux de course, quoi. Même Need for Speed, super, hein, sympa, voilà. Mais alors, la diversité des maps, voilà, franchement, je vois pas. Là, les vraiment en toute dimension, incroyable. Puis même les obstacles, c'est tellement, parce que du coup, comme ils sont sur, je pense aussi, ce qui est super aussi, c'est le côté fantastique, parce que ce soit Need for Speed ou même Wipeout, tu peux pas bénéficier de délire complet. Il y a quand même, voilà, il y a quand même, il faut une touche réaliste. Alors que là, bon, on met la grosse boule avec Wario, tout le monde va bien. C'est ultra crédible, aucun problème. Évidemment que t'as une espèce de boule, tu ne sais pas qui fait balancer la boule, mais pourquoi. Mais c'est Mario, donc tout est possible. Et donc, du coup, ça te permet de faire tellement de choses différentes. C'est tellement normal. Mais c'est vrai que je pense que ce jeu c'est genre le voyage tout le temps sur, ouais. Et moi même des maps j'aime bien refaire des maps et du coup de les alterner pour passer quand même quelques temps avant de les refaire parce qu'elles sont tellement généreuses et riches que de toute façon tu redécouvres comme Colombo.
Là où j'étais triste, c'est tu sais, là, il y a une carte de Yoshi qu'ils ont repris de Nintendo 64.
Ouais.
Et en fait, cette carte-là, normalement, tu ne connais pas ta position. C'était un truc sur Nintendo 64. Tout le monde avait des points d'interrogation sur sa position. Tu voyais des trucs sur la carte, mais tu savais
pas qui t'étais. Pas carte.
Tu savais pas, en fait, tu savais pas lequel t'étais, en fait. Il y avait pas, à l'époque, il y avait pas la mini carte où tu pouvais voir où est-ce que t'étais, tu sais, genre. Et du coup, tu connaissais pas, et tu sais, c'est le circuit Yoshi, il y a plein de possibilités. Tu peux prendre plein de chemins différents. Bon, à force de la jouer, je pense que tout le monde prend le même, donc en fait, c'est quand même assez facile de savoir combien t'aimes t'es. Mais quand j'étais plus petit, ce truc-là, c'était incroyable parce que
c'était un labyrinthe.
J'étais en mode, quoi? C'était moi premier? Bon, voilà. Après, j'étais un enfant, évidemment, genre, il y avait personne devant toi, et bien sûr que c'était toi le premier, tu vois. Mais, t'avais toujours ce petit truc-là en disant, putain, ça se trouve, je suis dernier, tu vois.
Mais t'imagines,
ah oui, parce que là, du coup, t'as pas ça.
Non, ils l'ont pas mis. Ils ont récupéré la map Yoshi, mais tu sais à quelle place t'es.
Petit détail.
Je connaissais pas assez bien sur Nintendo 64. Bah non, elle était pas chez moi, elle était plus chez des amis. Du coup, j'ai pas fait. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment. Bah ça, je pense que c'est pour le coup, c'est le premier jeu auquel je jouerai avec ma fille.
Ah, trop stylé.
Ouais.
Bah, elle peut pas jouer là déjà?
Bah, elle a 5 ans, alors tu sais. En fait, je préfère qu'elle commence à lire un petit peu.
Ouais.
Tu vois?
Mais elle a pas. Quand vous jouez, elle a pas envie de jouer?
On joue pas. En fait, quand on joue, elle dort. Ouais, elle dort. Okay. Et puis, je trouve, de toute façon, la nuit met un côté encore plus dramatique au fight entre mon conjoint.
Vous pouvez pas gueuler.
Mais ça rend quand même plus dark. C'est bien. Tout est bienvenu pour rendre ça encore plus dark. Donc, non, parce que, par contre, évidemment, si on était en train de jouer devant elle, évidemment qu'elle participerait. Pour l'instant, elle a joué qu'à Just Dance, mais du coup, c'est pas, enfin, je c'est pas comme si elle prenait le contrôle d'un personnage dans un jeu de plateforme et c'est pas du tout la même expérience. Là, pour le coup, elle pourrait vraiment incarner un perso, jouer et tout ça, se retrouver dans une fantasy. Et voilà, c'est mignon, c'est super bien fait, c'est pas non plus complexe. Et donc, je pense que ça, pour le coup, je pense qu'elle va y jouer. Je sais pas quand est-ce que je vais jouer avec elle, mais je me dis ouais, bon, ça je pourrais vraiment jouer avec elle. Mais tu sais, à 5 ans, je sais pas si beaucoup d'enfants jouent déjà aux jeux vidéo. Enfin, il y en a, ils ont les tablettes.
Ils ont les tablettes. Ils ont les iPhones, ils ont un an et demi, donc.
Ouais, mais je trouve que c'est une question d'accompagnement quand même.
T'es sûr, tu veux pas qu'elle devienne professionnelle de Fortnite?
Bah, je pense pas que tu deviens professionnel de Fortnite quand on
en commençant tôt
ta tablette pendant.
La réalité. Non, mais tu rigoles, mais genre là, les gosses à qui jouent qui ont 10 ans, ils sont incroyables.
Bien sûr. Parce
qu'en fait, ils ont des.
Mais là, elle a 5 ans.
Oui. Ouais, mais.
Eux, ils savent lire, tu vois.
Ouais. Ah, mais à voir. Franchement, je trouve les enfants, tout ce qui est technologie,
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Vite. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais nous, on l'a fait, tu sais, taper au clavier, faire des trucs. Non, en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'en fait, quand l'exposition aux écrans, elle est, on va dire, anarchique et exagérée, chez des enfants en bas âge, tu peux avoir des retards de développement quand même, du langage, etc. Donc c'est pas rien. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui savent ça font un peu gaffe avec leurs enfants. Moi, je fais un peu gaffe parce que je sais qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut l'accompagner. La question, c'est de la maîtrise du temps que tu vas la laisser avec le système. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire dessus? Mais par contre, moi, je reste persuadée que oui, il y a plein d'enfants qui jouent super bien à des jeux, et tant mieux. Et je trouve que ça développe énormément de capacités cognitives. Il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, notamment en Suisse, et ils démontrent que il y a des jeux qui, notamment des jeux de first-person shooter, qui peuvent. C'est Daphné Bavelier, une scientifique. Qui a fait un TED Talk d'ailleurs sur la question et qui montre en fait que ça développe des capacités cognitives, notamment l'attention visuelle, les réflexes, etc. Donc, et puis après, t'as des jeux qui sont aussi pro-sociaux, plus casus, et qui renforcent le développement des comportements pro-sociaux. Donc ça, c'est Swan Pichon, un autre scientifique qui travaille dessus. Donc, et eux, ils travaillent en neurosciences aussi. Et en fait, donc ça, c'est... Donc oui, il y a d'énormes bénéfices. Après, c'est aussi important de comprendre ce qui se passe à quel stade et de développement cognitif chez l'enfant et pouvoir avoir quand même un œil pour que justement ça arrive à un moment qui est propice et qui fera pas que du coup tu seras obligé de lui retirer ça quand ça elle aura suffisamment d'intérêt pour la question. Ce serait un petit peu dommage pour elle. Moi, j'aimerais bien qu'elle puisse commencer à jouer. Un moment où elle sait quand même un peu lire, pareil, son système visuel, il est aussi bien suffisamment développé pour pas qu'une exposition potentiellement excessive à un environnement 3D puisse un petit peu perturber ça. C'est des petites choses toutes bêtes, mais et peut-être que je suis trop précautionneuse là-dessus, mais bon, voilà.
Je pense que c'est plus moi avec mon objectif d'avoir mon gosse professionnel à Fortnite qui voyait les choses beaucoup plus simples.
Mais je pense que justement pour faire ça, c'est ça qui est intéressant parce que pour être super bon à Fortnite, il faut justement que tu développes bien certaines capacités aussi, en fait. Donc tu vois, c'est juste, en fait, t'as des stades de développement où, en fait, ça se passe là ou ça se passe pas. Donc chez l'enfant et l'embryon et le fœtus, enfin, il y a des stades de développement qui soient cognitifs ou autres, où si ça se passe pas avant tel âge, ça se passera pas après, ou alors ça va te demander, voilà. Et donc du coup, c'est à ça, en fait, et notamment le système visuel. Ça, au bout d'un moment, c'est compliqué alors. Donc
Moi je voulais plus la méthodologie genre Obélix, c'est-à-dire j'allais le faire tomber dedans et puis il va ressortir fort à vie.
Mais je pense que ça aussi, ça existe. La preuve,
oui.
J'étais sur Amstrad et je torche mon conjoint. conjoint à Just Dance. Donc, je veux dire, c'est clair. Non, je plaisante. En plus, lui, il joue en compète à Call of Duty, c'est un fou. Puis là, là, il va faire péter le champagne, il a 48 followers sur Twitch, tu vois, il en peut plus.
Ah, stylé.
Il veut passer le level des 50. Mais il a commencé à streamer il y a juste quelques semaines. Hein, de toute façon. Mais avant, il faisait vraiment des compétitions et quand il était étudiant, il gagnait de l'argent là-dessus. Bon, pas beaucoup, mais ouais. Si, c'est un fou. Et lui,
il est un call of.
Ouais, c'est ça. Et mais par contre sur Mario Kart de temps en temps j'étais voilà ça fait le malin hein, là sur Warzone mais viens conduire voilà. Et il y a pas de secret hein c'est encore moi qui garde la voiture donc c'est tout c'est encore moi qui fais les créneaux parce que c'est tout
parce que Mario Kart
mais voilà parce que je veux dire à un moment tu maîtrises les véhicules ou tu les maîtrises pas
Alors, en parlant de créneaux là j'aimerais ton avis sur je sais pas si t'as suivi Mario Kart Live Home Circuit qui est sorti en fin d'année dernière genre le Mario Kart où tu possèdes au final un vrai petit kart que tu peux téléguider et donc t'as Mario Kart en réalité augmentée dans ton salon. Je sais pas si t'as suivi. Non, t'as pas suivi ?
Pas du tout.
Bah hyper. Enfin, on parlait d'innovation Nintendo tout à l'heure et voilà, ils ont mis ça en place. C'est vrai. Et donc t'as un vrai petit kart avec une petite caméra et donc le circuit se modélise en fonction des meubles qu'il y a chez toi, etc. Et
donc en fait c'est pour jouer à une voiture téléguidée.
Ouais, mais via Mario Kart.
Voiture téléguidée et l'univers Mario Kart quoi.
Parce que du
et
coup,
l'univers Mario Kart.
Genre il y a d'autres.
D'accord.
Ouais. Il y a de l'IA et enfin tu peux te prendre des. Si tu prends une carapace, ta voiture elle va être immobilisée tu vois. Dans ta voiture ouais. Télécommandée, elle va être immobilisée.
Mais du coup ton univers en fait il est construit en fonction de ton espace.
Ton appart, ouais.
Exactement.
Ouais. Vaut mieux avoir un grand appart.
T'as des balises à mettre, etc. Et bah, le circuit est vraiment unique et personnalisé à ce que t'as chez toi, quoi.
Est-ce que du coup, quand c'est le bordel chez toi, t'es un
ouais,
niveau plus
obstacle.
Difficile
Non, mais ça.
La nouvelle course arc-en-ciel dans le
c'est
salon.
Arc-en-ciel de poubelle, quoi.
Lendemain de fête. Ah, là, j'ai passé le niveau le lendemain de fête, les gars. Je vous raconte pas. Ah non, je sais pas. C'est marrant. Alors, moi, je t'avoue que sur tout ce qui est réalité augmentée, voire réalité virtuelle, moi, j'ai vraiment... Du coup, je paierais beaucoup d'attention la manière dont ils réussissent à nous rendre dans un autre univers du coup et à quel point tu reconnais pas du tout que c'est chez toi quand même tu vois ce que je veux dire parce que je trouve que ce qui est intéressant dans le fait d'être dans un autre univers c'est d'être dans un autre univers une fois je me rappelle avec un collègue en innovation on avait un en fait, il nous avait parlé d'un projet et on l'avait même pas cru au départ. Donc le projet, c'était un projet de réalité virtuelle dans lequel, quand tu mettais ton casque de réalité virtuelle, tu te retrouvais dans ton salon en train de jouer à un jeu vidéo.
Genre wow, l'inception.
Ouais. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de mettre un casque ? Mais tu sais, pas un appartement, genre le Crayon ou Ritz, genre un appartement. De base et donc je me disais mais et en fait donc il nous disait ouais que c'était un projet et c'était trop drôle parce que personne n'y croyait tout le monde se demandait pourquoi et au départ on l'avait pas cru parce qu'on disait oui mais ça n'a pas pu exister et puis en fait un jour ils avaient retrouvé les screenshots du truc on était là mais pourquoi tu vois et donc moi je paierais beaucoup d'attention sur à quel point en fait on joue en plus à Mario Kart entre guillemets, on est vraiment dans un univers fantastique où il y a beaucoup de enfin voilà, où on reconnaît pas chez soi parce que la raison pour laquelle j'apprécie Mario Kart Deluxe sur Switch, c'est justement parce que les circuits sont malades, ont des formes complètement barrées quoi. d'un circuit à l'autre. Les maps sont tellement diverses, donc du coup, là, ma question, j'ai pas encore essayé cette version-là, mais ma question c'est, mais du coup, qu'est-ce que ça donne en plus de l'expérience Mario Kart pour que ce soit un truc intéressant au-delà du simple côté, ouais, le côté gadget, un peu toy, ouais, voilà, de la tech. Est-ce que ça dépasse le côté toy, ou est-ce que vraiment ils arrivent à apporter, tu vois, une vraie valeur à l'expérience IA, ou c'est juste, bon, il fallait qu'il y ait Mario aussi sur ce créneau, tu vois. Donc, je me pose la question.
Mais je pense qu'il y a un mélange des deux, genre, il y a un peu le côté... Mario Maker, où là, ça va te mettre à contribution toi et ta créativité, comme si tu faisais des dominos chez toi et que t'as besoin de faire en sorte qu'il y ait tout un parcours particulier. Bah, c'est à toi de réfléchir à comment tu peux un peu, au lieu de faire juste une ligne droite et passer derrière le canapé, faire des virages, des choses comme ça et tout. Mais ouais, c'est très pertinent ce que tu dis.
Quand tu dis domino, est-ce que ça veut dire que, du coup, dans le jeu, tu crées, ou c'est parce que chez toi tu vas mettre les objets de manière différente que ça va se créer, ou les deux d'ailleurs?
Les deux, si j'ai bien compris.
Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ça peut être quand même intéressant de créer ses propres maps, même si tu pourrais aussi potentiellement les créer dans un environnement qui n'est pas réalité augmentée ou réalité virtuelle.
Mais à confirmer, hein, pour le coup j'ai pas testé, faut voir dans le détail.
Hyper intéressant.
On arrive déjà sur les questions de la fin. Est-ce que tu peux nous dire à quoi tu joues en ce moment?
Mario Kart. Très franchement, Mario Kart. Mais j'ai aussi... en fait, j'ai repris sur Switch les remasterisés Assassin's Creed.
Ok. Donc,
Et c'est marrant. Mais je prends plus de... En ce moment, je prends encore plus de plaisir à Mario Kart, mais parce que j'y joue pas toute seule et j'ai vraiment des comptes à régler. si en tout cas, il y a des jeux qui me font envie, Fall Guys, mais je pense que je sais que si je commence, c'est...
Ah, Fall Guys, c'est très très bon pour régler ses comptes.
Ouais, mais voilà. Mais voilà,
moi, avec un pote... On joue à Apex, donc c'est le truc un peu genre, ouais, beaucoup plus genre... Et au bout d'un moment, parfois, on se prend la tête, on est là genre, t'es nul, non, toi, t'es nul, non, toi, t'es nul. Et là, je dis, Fall Guys, 23h minuit, celui qui a le plus de points, il gagne $5 de l'autre. Tac.
Terminé.
On règle le compte sur... C'est vraiment un réglage de compte avec de l'argent, tu vois, des vrais comptes.
Mais ça, je pense que... Ouais, Fall Guys, moi, je pense que c'est... Voilà, encore le côté un peu... Moi, j'aime bien les trucs un peu mignons. J'adore ça. J'adore les trucs mignons en jeu.
Mais là, je t'assure que c'est pas mignon. Genre, tu peux attraper les gens, les pousser, les genre, virer du truc et tout. C'est mignon au début, puis quand tu commences à bien jouer, là, t'as juste envie de faire chier les gens.
Mais c'est pour ça que j'aime bien Mario Kart aussi, hein. C'est parce que tu vois, tu joues à Need for Speed, donc mais en fait t'sais, tout le monde est sympa là-dedans, enfin t'sais, ok, bon, tu t'es foncé dedans, waouh. T'sais, c'est pas Mario Kart, il y a un côté tiens prends-toi ça, merci, au revoir, t'sais, il y a le côté sous le côté mignon, c'est quand même tu vois, c'est quand même méga abusé. Et là Fall Guys, moi je pense là ça coche toutes les cases. Donc je pense que ça, ouais, ce serait vraiment un jeu qui me ferait envie, mais qui me permettrait peut-être pas d'assurer mes duties et d'employé et de maman. Certainement.
Bientôt sur Switch, de toute façon. Fall Guys, je crois qu'il sort ce mois-ci, non, sur Switch. Ah non, en juin.
Ouais, il avait annoncé pour l'été lors du dernier Nintendo Direct.
Ça, moi, je pense que ça va être un truc bien pour moi. Si je devais me prendre un nouveau jeu, là, je sais que celui-là, je le rentabiliserais, là. Il n'y a pas de problème.
Ouais.
Sinon, Assassin's Creed, ouais, pas du tout, parce que je travaille subi, mais je pense que c'est aussi les restes de Prince of Persia, hein, très franchement. C'est ni plus ni moins. D'ailleurs, je pense que si, quand Prince of Persia ressort, si un jour il est annoncé. je pense que j'y jouerais, tu sais, mais juste par évidemment, tu vois, c'est comme si, enfin, c'est obligatoire, tu vois, c'est, je me pose même pas la question, évidemment que j'y arriverai à vérifier. Ouais. Pour moi, c'est comme la suite, c'est une suite logique, tu vois, tu vas avoir le mot de la fin, c'est la même chose, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment aujourd'hui, tu vois?
Bah, justement, ouais, c'est quoi ton mot de la fin?
Mon de la fin, ouais, je vais forcément faire un dédicace à mon père. Hein. Genre, ça a été la star de ce podcast. Il ne sait pas, mais si, quand même. Mais si, mais parce que mine de rien, c'est l'entrée aux jeux vidéo. Et puis, et je pense que si c'est intéressant. Sinon, ouais, l'autre point, c'était, ouais, toutes les discussions qu'on a eues sur, la perception qu'on peut avoir d'un jeu et ce qu'on peut ne pas percevoir à certaines étapes de la vie, je pense que ça c'est aussi très prégnant. Et ça montre aussi que le jeu vidéo peut avoir un impact incroyable. Et je pense que depuis 2011, bah, le jeu vidéo fait plus d'argent que le cinéma. Avec le Covid, il a fait plus que le cinéma et le sport entertainment combiné. Et donc, je pense qu'il y a énormément de possibilités pour aussi contribuer à des modèles mentaux un petit peu plus bienveillants, un peu plus inclusif et divers. Mais je pense que vraiment le jeu vidéo a sa carte à jouer. Je pense pas simplement à ce qui se passe au sein de l'industrie chez les pros, mais je pense que c'est un média qui est tellement fort aujourd'hui que je pense qu'il y a énormément de possibilités de faire des choses dans ce milieu-là avec un impact sociétal ultra large. Donc ça, ce serait peut-être mon mot de la fin. Ça fait peut-être un peu trop...
Ah non, sur ces belles notes, je pense que c'est parfait.
Mais j'y crois vraiment. Je suis peut-être naïve, mais moi, j'y crois à mort.
Top. Bah, sur ces notes positives, je pense qu'on peut conclure. Bah, merci beaucoup, Mélissa.
Merci à vous. C'était super intéressant.
Et on se dit à une prochaine. C'était Du Temps et des Jeux. Musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine !